Chapitre 35. Ceux qui savent. Burroughs, Massachusetts. Lundi 23 août 2010. À mon arrivée là-bas, je fus accueilli chaleureusement par le recteur Dustin Purgall. Il me présenta à mes collègues. Il y eut d'abord une longue réunion de programme, puis nous déjeunâmes tous ensemble. Ce n'est qu'ensuite que Purgall me conduisit à l'ancien bureau de Harry. À côté de la porte, mon nom y était désormais inscrit. Près de 12 ans après l'avoir rencontré ici, je marchais dans les traces de Harry Kébert. J'entrai dans la pièce, ému. Rien ne semblait avoir bougé depuis ma dernière visite.
« S'il vous manque quelque chose, n'hésitez pas, » me dit Purgall, qui m'observait depuis le pas de la porte. « Nous avons un petit budget pour des nouveaux meubles, si vous le souhaitez. »«
Merci, mais c'est parfait. Tout est parfait comme ça. » Je m'assis au bureau et contemplai les lieux. Purgall s'en alla. J'ouvris le tiroir, celui dans lequel j'avais, en juin dernier, découvert cette statue de mouette. Elle était toujours là. Et en dessous, ce vieux journal auquel je n'avais pas prêté attention lors de ma précédente visite. Je m'en saisis. Il devait dater d'au moins 20 ans, sinon plus. Je vérifiai la date et je compris aussitôt. J'attrapai le journal et quittai précipitamment le bureau. Dans le couloir, je tombai sur Dustin Purgall.
« Tout va bien, Marcus. »
« Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, je reviens. Je ne sais pas quand, mais je reviens. »«
Faut vous en aller ?»«
J'ai un rendez-vous important. » »«
Avec qui ?»
Je ne répondis pas et le plantai là sans qu'il comprenne ce qui se passait. Il me cria simplement d'un ton presque amusé.
« En tout cas avec vous, Marcus, que vous soyez étudiant ou professeur, on ne s'ennuie jamais. »
Le journal que j'avais retrouvé était la Gazette d'une petite ville canadienne nommée Lionsburg, à la frontière avec les États-Unis. Cette édition jaunie datait du 30 août 1975, un jour capital dans la vie de Harry, car il marquait la disparition de Nola Kellerghan. Ce journal n'était pas là par hasard. C'était un indice que Harry m'avait laissé depuis des mois pour que je puisse le retrouver. Il s'était probablement installé là-bas. Après quelques heures de route, j'arrivais dans la petite ville de Lionsburg. Il ne me restait plus qu'à retrouver Harry. Je me rendis devant l'hôtel de ville, considérant que je pourrais facilement interroger des gens du coin. Mais alors que je venais de me garer, je remarquai une librairie dont l'enseigne me laissa bouche bée. La librairie s'appelait « Le Monde de Marcus ». J'y pénétrai un peu intimidé. Je fus accueilli par une femme blonde à qui je trouvai un faux air de Nola Kellerghan, mais version la quarantaine bien sonnée. « Je peux vous renseigner ?» me demanda-t-elle. « Est-ce que Harry est là ?» La femme se tourna vers l'arrière-boutique. « Chérie, une visite pour toi. » Harry apparut soudain. Il était rayonnant. « Marcus, me dit-il, vous m'avez enfin retrouvé. » Je passai les jours suivants chez Harry. Ce ne fut pas sans me rappeler mes visites à Aurora, à une exception près. Il avait une femme dans sa vie désormais, Nadia, dont je venais de faire la connaissance. Ils habitaient ensemble dans une confortable petite maison du centre de Lionsburg, dotée d'une terrasse couverte qui donnait non pas sur l'océan comme à Goose Cove, mais sur une rue tranquille. Le premier jour, je me réveillai vers 5 heures du matin. Je sortis sur le porche baigné par les lumières de l'aube. Il faisait déjà chaud. Alors que je contemplais le voisinage, j'entendis la voix de Harry derrière moi.
« Je vois que vous continuez à vous lever aux aurores. »
Il était assis dans un fauteuil en bois, je ne l'avais pas remarqué. Il tenait une tasse de café dans ses mains, une deuxième encore fumante m'attendait sur une table d'appoint. Je pris place à côté de lui. « Comment me connaissez-vous si bien ?» lui demandai-je en avalant une gorgée de café.
« Parce que je suis votre ami, Marcus. Un ami, c'est quelqu'un que l'on connaît bien et que l'on aime quand même. »
J'esquissai un sourire. Il poursuivit.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez trouvé le journal dans le tiroir de mon ancien bureau. J'en déduis que vous allez donner votre cours à l'université de Burroughs.
Uniquement pour un semestre, répondis-je. Je m'y suis engagé, je n'allais pas faire faux bond à Dustin Purgall.
Purgall a voulu vous virer de cette université lorsque vous y étiez étudiant, je vous rappelle.
Je sais, mais c'est du passé. Il faut savoir le mettre derrière soi.
C'est vous qui dites ça ? Me fit-il remarquer d'un ton amusé. « Vous savez, Marcus, si j'ai essayé de vous dissuader d'aller à Burroughs, C'était une façon maladroite de ma part de vous inciter à vivre votre vie, de laisser de côté vos loyautés et de faire ce qui est bon pour vous. Et je crois que je ne sais plus très bien ce qui est bon pour moi. J'en ai bien conscience, me dit Harry, et je suis là pour vous aider. Durant ces quelques jours avec Harry, je retrouvais le lien profond que j'avais noué avec lui au fil des années. Nous parlâmes sans discontinuer, comme pour rattraper le temps perdu, sur sa terrasse, dans son salon, dans le restaurant proche de sa maison où nous passâmes des heures comme jadis au Clark's. Dans sa librairie également, où au cours d'une après-midi, il attrapa sur un rayonnage un exemplaire de la vérité sur l'affaire Harry Kéber. « Ce livre, me dit-il, je l'ai lu et relu. Je ne vous ai jamais dit la fierté que j'éprouve à votre sujet, Marcus. Je me rends compte que j'ai été maladroit en juillet dernier lorsque je vous ai donné rendez-vous à cette représentation de Madame Butterfly. Je ne souhaitais pas faire de mystère inutile. J'étais nerveux de vous retrouver. J'ignorais comment revenir dans votre vie après en avoir disparu si subitement. À l'époque, j'ai d'abord cru que je vous en voulais d'avoir percé mon secret, avant de me rendre compte que je craignais surtout de vous perdre. Je pensais que vous me détestiez après avoir découvert la vérité sur les origines du mal. Et je ne vous en ai jamais voulu, Harry. J'ai essayé désespérément de vous retrouver. Je vous admire, Marcus, et je vous suis à jamais reconnaissant. Grâce à vous, grâce à votre enquête en 2008, j'ai pu enfin tourner la page de Nola. Je n'ai plus besoin de l'attendre. Je ne vis plus dans le passé. J'ai pu refaire ma vie. Et grâce à vous, j'ai surtout compris que nos démons ne disparaissent jamais. On s'y accoutume et ils finissent par partager notre quotidien sans plus l'entraver. Vous avez réparé quelque chose en moi, Marcus, et j'ai voulu faire la même chose pour vous. C'est pour ça que je vous ai remis ce billet pour le concert d'Alexandra Neville, pour produire un déclic, pour que vous alliez la retrouver. Elle est la femme de votre vie, Marcus. Il n'est pas trop tard pour tout réparer avec elle. Malgré ce qui s'est passé dans votre famille de Baltimore, ce billet de concert, c'était pour vous signifier que la vie continue. Il suffit d'une simple étincelle pour la faire redémarrer. Après le concert, vous auriez pu aller dans les coulisses. Vous auriez pu faire savoir à Alexandra Neville que vous étiez là. Vous l'auriez retrouvée. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Je n'en sais rien, Harry. C'est trop compliqué. Il n'y a rien de si compliqué, Marcus. Je repense souvent à vos 31 conseils d'écriture que vous mentionnez dans la vérité sur l'affaire Harry Kéber et dont vous m'attribuez la paternité. Il n'y en a qu'un seul que j'aurais dû vous donner et qui remplace tous les autres. Lequel ? Posez-vous la question de pourquoi vous écrivez. Une fois que vous y aurez répondu, vous saurez ce qui fait de vous un écrivain. Savez-vous pourquoi vous écrivez, Marcus ? Je restais muet avant d'admettre finalement « Je ne sais pas, Harry. Je ne sais plus. Je ne peux pas répondre à votre place, Marcus. Mais je vais vous dire ce que je pense. Vous écrivez pour la réparation. La vérité sur l'affaire Harry Kéber a été ma réparation. L'affaire Alaska Sanders, dont vous m'avez dit que vous avez commencé la rédaction, sera certainement la réparation de votre ami Gallowood. C'est très généreux à vous de vouloir réparer tout le monde, Marcus. Mais il serait peut-être temps de penser à vous. Bien entendu. » Vous pouvez passer votre existence à sillonner l'Amérique en vagabond magnifique de la littérature pour y résoudre tous les meurtres sordides qui ont eu lieu. Mais cela ne vous réparera pas, vous. Cela ne réparera pas ce qui est arrivé à votre famille de Baltimore. Cela ne vous ramènera ni Alexandra ni vos cousins. Il est temps de vous pardonner, Marcus. Et seule l'écriture vous permettra d'y parvenir. C'est ainsi que Harry Kéber, mon ami et mentor retrouvé, allait me pousser à prendre une décision qui allait changer le cours de ma vie, me trouver une maison d'écrivain. « Votre appartement à New York, c'est très bien, me dit-il, mais vous avez besoin d'un lieu où vous consacrez à l'écriture, un lieu qui vous permette de vous recentrer sur vous-même, votre Goose Cove. » « J'aime bien la Nouvelle-Angleterre, fis-je remarquer. « Oubliez la Nouvelle-Angleterre, Marcus. Votre identité est ailleurs. » Un lieu qui vous définisse. Fermez les yeux et pensez à une ville. Baltimore, répondis-je sans hésiter. Mais je ne crois pas avoir envie d'aller à Baltimore. Ce n'est pas forcément Baltimore, mais on progresse. Quand j'entends Baltimore, je pense évidemment à votre famille, à vos cousins. Vous n'avez encore jamais écrit sur les Goldman de Baltimore, Marcus. Il y a forcément un endroit où vous avez envie de le faire. C'est dans cet endroit que Goldman pourra réparer Marcus. Lorsque je quittais finalement Lionsburg, le jeudi 26 août, je me sentais apaisé, différent. Une page de ma vie était en train de se tourner. Avant de remonter en voiture, je déposais un baiser sur la joue de Nadia et je donnais une longue accolade à Harry. « À bientôt !» lui dis-je. « Ne me laissez pas sans nouvelles, Marcus, et revenez quand vous voulez. Vous êtes chez vous, ici. Nadia et vous êtes également les bienvenus à New York. » « Pas à New York, » me répondit Harry avec un sourire amusé. « Je viendrai dans votre maison d'écrivain quand vous l'aurez enfin trouvée. » Je me mis en route. Tout au long du trajet, j'écoutais de grands airs d'opéra. Après avoir passé la frontière entre le Canada et le New Hampshire, je reçus un appel de Gal Wood.
« L'écrivain, »
me dit-il d'un ton catastrophé,
« on s'est planté. » Benjamin Bradbird avait un alibi pour le meurtre d'Alaska. Ce n'est pas notre homme. Je ne sais pas comment c'est possible, mais on s'est fait complètement berner.
Dans les jours qui avaient suivi le classement de l'affaire, Gal Wood était resté tracassé par ces débris de phare qu'on avait retrouvés dans la forêt. Il s'était d'abord efforcé de ne pas y penser. Mais cette contrariété revenait dans son esprit sans cesse.